Les cours du Collège de France, Nalini Anantharaman, chère géométrie spectrale.
Bonjour, donc on va... Alors à partir de maintenant, on va parler de la géométrie asymptotique des surfaces aléatoires en grand genre, des surfaces hyperboliques aléatoires en grand genre. Alors vous allez voir que on va utiliser de plus en plus d'analyses. Hein, c'est au bout d'un moment, quand on fait de la géométrie, il y a des moments où on avait déjà un petit peu vu la dernière fois, mais il y a certaines choses qu'on voit sur les formules et on n'a pas forcément une explication par un dessin qui va derrière. Bon, là, j'ai rappelé certaines notations et certains résultats qu'on avait énoncés la dernière fois. Les fonctions VGN, hein, les polynômes de volume qu'a étudié Mirzakhani. Alors, on va s'intéresser toujours au nombre de composantes de bord fixées et à la limite quand le genre tend vers l'infini. Donc ces fonctions volume, je rappelle que Mirzakhani avait montré que ce sont des polynômes et on avait obtenu un certain nombre d'informations grâce à la récursion topologique, d'informations sur les coefficients donc, qui s'appellent C de D et puis qui dépendent de G et de N. En particulier, j'avais dit que ces coefficients ils décroissent comme fonction de D, donc les DI ce sont des entiers, c'est une fonction décroissante, et en particulier ça implique que si on regarde la fonction volume VGN en L1, LN, vous voyez que si je multiplie en fait, sous les intégrales, cette fonction, elle se retrouve systématiquement multipliée par le produit L1, Ln. Donc, on se retrouvera toujours avec cette fonction VGN multipliée par L1, Ln. Et si vous multipliez tout par L1, Ln, ces polynômes ressemblent au début du développement en série entière de ce qui sort, c'est le sinus hyperbolique Li sur 2. Donc ça, on a déjà une majoration qui dit que la fonction volume est plus petite que sa valeur en 0 fois le produit des sinus hyperboliques de Li sur 2. Et c'est pour i allant de 1 à n, et parfois ça sera suffisant de juste majorer ça par exponentielle somme des Li sur 2. Après, on avait énoncé un certain nombre de développements asymptotiques, donc chacun des coefficients a d fixé. Si je renormalise les coefficients par leur valeur en 0, ça tend vers 1, et puis il y a un développement asymptotique en puissance de g moins 1. Et puis il y a tout un certain nombre de quantités dont on connaît des développements asymptotiques, donc en particulier le quotient VGN sur VGN plus 1, donc qui consiste à rajouter un point marqué. Si je multiplie par 4π au carré fois 2g moins 2 plus n, c'est pareil, ça tend vers 1, et puis il y a un développement asymptotique en puissance de g moins 1. Et enfin, un autre développement asymptotique, une autre asymptotique qui sera utile de connaître, c'est le quotient entre vgn et vg moins 1 n plus 2. Donc là, la caractéristique de l'air reste la même, en fait, ça tend vers 1 et ça a un développement asymptotique en puissance inverse de G. Un autre résultat qu'on avait énoncé, Mirzakhani l'avait démontré, mais là c'est la forme un peu plus précise énoncée dans un article de Wu et Tsui, c'est que on avait dit, c'est le résultat qui dit que le volume des espaces de modules de surface non connexe, il est beaucoup plus petit que WR, c'est soit VR sur 2 plus 1 avec 0 composante de bord, ça c'est ici R et pair. Ou V, R plus 1 sur 2. Donc à chaque fois, on compare le volume de l'espace des modules des surfaces avec Q composantes connexes par rapport au volume des surfaces de l'espace des modules d'une surface connexe avec 0 ou 1 composante de bord et puis avec la même caractéristique de l'air. Et ce que dit cet estimé, entre autres, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une composante connexe, on perd une puissance de la caractéristique de l'air. Donc plus on disconnecte, plus le volume devient négligeable. Et puis je vais réénoncer la symptotique de Mirzakhani et Zografe, qui dit que VGN, c'est égal à une constante dont la valeur n'est pas connue, fois factoriel 2G-3 plus N, fois 4π au carré puissance 2G-3 plus N, divisé par racine de G, et fois 1 plus un développement asymptotique. Pour la suite, il faudra retenir que ça, la seule chose, enfin je vais l'utiliser sous la forme, c'est de la forme caractéristique de l'air, j'utilise la formule de Stirling, hein. Le terme dominant, hein, le terme le plus important, c'est cette factorielle, et ça fait que ces fonctions volume, si j'appelle qui la quantité de G-2 plus N, qui est l'opposé de la caractéristique de l'air, ça se comporte comme qui à la puissance qui. Et puis le reste, ce sont des choses qui sont exponentielles. Alors, avec Laura Monk, on a étudié ces coefficients, la dépendance de ces coefficients par rapport à D, d'une manière légèrement différente de ce qu'avaient fait Mirzakhani et Zografe. En fait, on a remarqué, la remarque est déjà faite finalement dans l'article de Mirzakhani et Zografe, mais n'est pas complètement exploitée. On a remarqué que ces coefficients, si on leur applique des différentielles discrètes, alors si on les dérive, on les voit comme des fonctions de D1, on les voit comme des fonctions définies sur les entiers positifs. Si on leur applique des dérivées discrètes, si on leur applique n dérivées discrètes, les dérivées sont très petites. C'est plus petit que norme de D à la puissance n. Alors je vais donner VGN sur G à la puissance n, et puis il y a des coefficients. Okay. Alors ici, m, alors les dérivées discrètes, si j'ai une fonction qui est définie sur les entiers positifs, la im dérivée discrète, c'est f de D1 DI plus 1 moins F de D1 DN. Donc ici, donc ça c'est la dérivée discrète par rapport à la IM variable. Ici M, donc M c'est lui-même un multi-indice. On applique M, on dérive M fois, M1 fois par rapport à D1, M2 fois par rapport à D2, etc. Et ici, alors je suppose que ma dérivée, elle est d'ordre 2N-1. Donc si je dérive, je vois ces coefficients comme fonction de D et je les dérive 2N-1 fois, j'obtiens quelque chose qui est d'ordre 1 sur g à la puissance 1 sur g à la puissance n. Et ça, alors il faut faire attention, ça c'était une petite erreur qu'on avait faite dans une première version de l'article, il faut faire attention, ce sont des variables juste définies sur les entiers positifs, donc il y a toujours des effets de bord. Quand on se rapproche trop de zéro et qu'on dérive, il y a des termes de bord qui sortent. Donc en fait, ici, hein, les DI sont des entiers positifs. Donc en fait, ça nous dit que cette fonction, elle vérifie quasiment une équation différentielle discrète. Mais pour pouvoir dériver un grand nombre de fois, il faut que D soit assez grand, sinon on va atteindre zéro et il y aura des effets de bord. Donc en fait, il faut que les variables par rapport auxquelles on a dérivé, soit suffisamment grande. Donc il y a, bon, il y a une suite à N qui est probablement pas optimale dans notre travail, peut-être qu'il mériterait d'être optimisé. Mais à partir du moment, en fait, il faut, voilà, il faut que les variables par rapport auxquelles on a appliqué nos dérivées discrètes soient suffisamment grandes pour pas être gênées par les termes de bord. Et, bon, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une telle inégalité ? Ben, quand on a une fonction dont les dérivées discrètes d'un certain ordre s'annulent, elle est polynomiale. Donc là, on va pouvoir en déduire que ces coefficients C de D, ils dépendent presque polynomialement de D. Ce qui veut dire que, en fait, d'une manière précise, on peut l'approximer, alors presque polynomialement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a un terme d'erreur qui est essentiellement celui-là. Il va y avoir un terme d'erreur. Oui, alors là, je l'ai écrit à l'ordre. Sur mes notes, j'ai écrit à l'ordre suivant. J'ai remplacé l'antenne par l'antenne plus 1. Donc il y a un terme d'erreur. Et puis là, il y a une fonction qui est presque polynomiale. Enfin, qui est polynomiale, mais. Simplement, elle est polynomiale à partir d'un certain rang, puisque mon équation différentielle est valide seulement à partir d'un certain rang. Donc, cette fonction par laquelle on va pouvoir approximer les coefficients, elle appartient à un certain espace. C'est les fonctions polynomiales à partir d'un certain rang. Donc, la définition de cet espace... petit n, c'est le nombre de variables... K, ça va être le degré des polynômes. Donc K, ça va être le degré. Et A, c'est le rang à partir duquel on peut dire que les fonctions sont des polynômes. Donc c'est la définition, c'est l'espace vectoriel engendré par les fonctions. Donc c'est des fonctions qui sont polynomiales, à condition que DI soit plus grand que A. Et par contre, pour les DI plus petits que A, on ne peut rien dire. Hein, donc là, les bêta I, ce sont la norme. Et puis I, c'est un sous-ensemble. I varie sur l'ensemble des variables, l'ensemble des indices de A à N. Donc schématiquement, en fait, on a des fonctions, je vais dessiner en deux variables. Donc on a des fonctions de plusieurs variables. Alors si les variables sont trop petites là, sur ce carré-là, les fonctions sont quelconques. Si je suis ici, je peux dire que la fonction elle est polynomiale en D1. Ici, elle est polynomiale en D2. Et ici, et par contre, à partir du moment où toutes les variables sont grandes, elles sont polynomiales par rapport aux deux variables. Hein, c'est ça que veut dire cette définition. Donc là, voilà, ce que dit l'équation différentielle, c'est que les coefficients, avec des petits termes d'erreur près, ils sont polynomiaux à partir d'un certain rang. Ce qui est assez important, c'est qu'on peut même dire que le degré... Alors oui, grand K, c'est le degré, donc somme des KI plus petit que le K. Donc par exemple, là, on peut dire que si on veut une approximation... à l'ordre 1 sur g puissance n plus 1, la fonction qu'on obtient, elle est polynomiale de degré 2n. Et je pense que ça, cette partie-là est assez optimale. Ce qui n'est pas optimal, c'est cet estimé sur a n n'est probablement pas optimal. Mais par contre, le 2n ici est très, très probablement optimal, l'estimé du degré des polynômes qui sortent.
Mais oui, cette histoire, c'est quoi les rapports entre g et petit n ? Est-ce que petit n est...
Alors pour l'instant j'ai dit n est fixé et g est grand si le petit n est fixé. En réalité c'est que je dise pas de bêtises. On peut faire varier un petit peu n avec le g, mais par contre si n devient trop grand par rapport à g, même là, par exemple, dans les estimés de Mirzakhan-Isograph, le développement asymptotique, il reste valable, uniforme, tant que n, c'est petit o de racine de g. Alors, peut-être, oui. Je vais essayer, je sais, peut-être je réutiliserai cette partie-là. Simon, est-ce qu'on sait si ce n'est pas une fonction polynomiale de manière exacte, non, ce n'est pas possible, parce que si c'était une fonction polynomiale, AG est fixé, si c'était une fonction polynomiale, le développement, il ne s'arrêterait pas. Quoi. Alors, une autre chose, c'est que là, pour l'instant, donc, ce polynôme, il dépend encore de G. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est... Parce qu'il est obtenu, en fait, il est obtenu en disant à partir du moment où on a une fonction dont les MIM dérivées sont petites, bah, on applique une espèce de formule de Taylor discrète. Et donc, à une erreur près, on approche C2D par son développement de Taylor. Donc, en fait, les coefficients... Donc, comme voilà, ce polynôme qui approche, c'est simplement un développement de Taylor. En fait, ces coefficients sont des combinaisons linéaires avec des coefficients un peu universels hein, qui viennent des développements de Taylor. En fait, voilà, les coefficients, ils viennent des conditions initiales. Ils viennent des conditions initiales, donc ils viennent des premières valeurs, donc pour bêta plus petit que AN plus 2N. Alors, comme conséquence, ça c'est notre compréhension de la dépendance en D des coefficients. Et si je remets ça maintenant dans les formules... si je remets ça dans cette formule-là, ça me donne aussi une information sur... sur la dépendance en les LI des fonctions VGN. Je vais toujours multiplier les fonctions volume par L1, L2, LN, et puis je vais renormaliser. Là, normalement, si je ne me suis pas trompé, voilà, dans les estimés, il y a toujours ici le volume total de l'espace des modules. Oui. Là, ici, je vais maintenant renormaliser ça. Donc ça me dit que ces fonctions volume renormalisées, il y a un terme dominant que je vais expliciter qui vient du cétil de 2D. Et puis il y a une erreur qui va dépendre, donc une erreur en grand taux de 1 sur G à la puissance N plus 1. Et ici, on peut aussi contrôler la dépendance en la longueur. Et j'ai exponentielle somme des LI sur 2 qui sort. Et cette fonction qui sort, elle est elle-même une combinaison linéaire de fonctions qui ont une forme bien précise et qui est celle qui va servir plus tard quand on démontre la borne optimale sur le trou spectral. Je commenterai après. Donc il y a. Mais typiquement, ces fonctions, comme fonction de L1, LN, elles ressemblent beaucoup à des choses du type un polynôme fois un cosinus ou un sinus hyperbolique de LI sur 2. Alors, I0, pour certains indices, c'est juste polynomial. Pour d'autres indices qui s'appellent I+, c'est des cosinus hyperboliques qui sortent. Et pour d'autres indices qu'on appelle I-, ce sont des sinus hyperboliques qui sortent. Et la fonction ici qui approche la fonction volume, c'est une combinaison linéaire de fonctions de ce type-là. Alors il y a des questions de parité en plus. La fonction volume, quand on la remultiplie par L1, LN, elle doit être impaire par rapport à chaque variable. Donc pour les indices dans I0 et I+, les KI sont impairs. Et quand on est dans I-, les KI sont pairs. On peut aussi contrôler les degrés qui sortent. La somme, le degré total, alors par rapport aux variables où on a des cosinus ou des sinus hyperboliques qui sortent, on a un bon contrôle du degré total. La somme des KI, on sait dire que c'est plus petit que 2N. Et celui-ci est probablement optimal. Si on calcule à la main, en fait, les quelques exemples, on se convainc assez vite qu'on ne peut pas... C'est vraiment ça, le degré qui sort. Et par contre, On a des, voilà, les termes qui sont polynomiaux qui sortent ici viennent justement des petites valeurs de DI pour lesquelles on ne sait pas dire la nature de la fonction. Et là, on n'a pas trouvé un très très bon. On peut juste dire que les KI sont plus petits que cette quantité, une certaine suite qui est définie par récurrence et qui est d'ordre de puissance n plus 1. Donc par rapport aux variables polynomiales, notre connaissance du degré des polynômes n'est pas excellente. Voilà, donc dans une première version de l'article, en fait, comme on s'était trompé en évaluant tous les effets de bord dans ces dérivées discrètes, on avait complètement oublié cette partie-là. On s'en est rendu compte après la première acceptation de l'article. Et puis effectivement, quand on a calculé des exemples, on voit vraiment que ces termes-là existent réellement. C'est pas juste un artefact de la preuve. Et puis les coefficients. Alors comment ça s'articule avec ce qu'avaient fait Mirzakhani et Zografe? C'est que en fait, les coefficients. Ben là, j'ai dit que pour les C-tilda, les coefficients, ils s'expriment en termes des valeurs. Il n'y a pas de tilde. Ils s'expriment vraiment en fonction des CGN de bêta pour un nombre fini de valeurs. Donc de même, là, les coefficients sont combinaisons linéaires des CN CGN de bêta divisé par VGN avec bêta plus petit que cette quantité AN plus 2N. Parce que les coefficients en fait viennent de ces coefficients-là. Et si on veut, en fait nous, la manière dont on voit les choses, c'est que notre résultat porte vraiment sur la dépendance des fonctions volume par rapport au LI. Et on l'a un petit peu, on l'a un peu découplé de ce qu'avaient fait Mirzakhani et Zografe, puisque nous, notre résultat nous dit comment les fonctions dépendent des LI avec une approximation d'ordre arbitraire en les GI. Et les coefficients sont des quotients de CGN de bêta sur VGN. Et si on tient à avoir un développement asymptotique en puissance 2G, on peut appliquer ensuite Mirzakhani et Zografe pour dire que celui-ci admet un développement asymptotique en G. En fait, la dépendance en G, finalement, on a un peu découplé la manière dont on a présenté les choses, c'est qu'on a découplé la question de la dépendance en LI et la question de la dépendance en G, maintenant, elle est ici. Et Mirzakhani et Zografe nous donne un développement asymptotique si jamais on le veut. Les coefficients de ces fonctions-là. Donc en fait, la fonction qu'on trouve, qui approche bien la fonction volume à l'ordre 1 sur g à la puissance n plus 1, c'est une combinaison linéaire de ces fonctions-là avec, en fait, les coefficients qui sortent ici s'expriment en termes des valeurs initiales des CGN de bêta divisé par VGN. En fait, voilà, les fonctions volume, on peut les voir simultanément comme des fonctions du genre et comme des fonctions des LI. Mirzakhani et Zografe, ils ont plutôt présenté les choses en disant, en tant que fonction du genre, ils vérifient certaines équations fonctionnelles. Et nous, au contraire, on s'est plutôt intéressé à une certaine équation différentielle en les LI. Et on peut les remettre ensemble à la fin de cette manière-là, si on veut. Et justement, si je remets ensemble les travaux qui concernent la dépendance en LI et les travaux qui concernent la dépendance en genre, on peut l'exprimer comme ça, le corollaire. c'est que si les fonctions volume renormalisées, elles admettent un développement asymptotique à tout ordre. Donc je peux faire ça à tout ordre. Ici, maintenant, il y a des coefficients qui sortent qui ne dépendent plus de... Alors ici, fk sur g puissance k. Avec, et puis toujours des termes d'erreur qui sont contrôlés. Alors ils sont contrôlés exponentiellement en LI et puis en 1 sur g à la puissance n plus 1. Et maintenant, voilà, maintenant là, les fonctions qui sortent, la fonction fk qui sort devant g puissance k, maintenant elle dépend plus de. Alors elle dépend toujours de petit n. N c'est le nombre de variables qui est fixé. Elle dépend de k et puis fnk de L1 Ln. Je peux dire qu'elle est, elle est combinaison linéaire de fonctions de ce type-là. Et puis le degré avec somme des ki plus petit que 2k. Il y a aussi un terme polynomial ici qui peut sortir. Alors, ce développement, dans ce développement, on peut, toutes les estimées du reste sont suffisamment précises pour qu'on puisse faire dépendre L du genre jusqu'à dans un certain intervalle. C'est uniforme en L tant que la norme de L. Alors ici, bon, il y a ce facteur 3 que, à mon avis, on n'a pas assez optimisé, mais à cause de ce facteur 3, là, il faut que la norme de L soit plus petite que g à la puissance 1 tiers, mais en fait, je soupçonne que c'est racine de g, que juste. Là, on a mal fait. Parce que si on regarde les termes précédents, vous voyez que devant le terme en 1 sur g à la puissance k, le degré, il est vraiment 2k. Donc ces termes-là, ils restent uniformes jusqu'à racine de g, et c'est juste dans l'erreur où, à mon avis, on n'a pas fait assez attention. Donc je pense qu'en fait, tout est uniforme jusqu'à racine de g. Encore une fois, les termes du développement, ils restent bornés tant que la longueur totale est plus petite que racine de g. C'est juste dans le terme d'erreur où peut-être il faudrait qu'on relise pour transformer ce 3 en 2. Et nous, pour le trou spectral, de toute façon, on s'intéressera à des longueurs d'ordre log g. Donc pour l'estimer sur lambda 1, donc on va commencer petit à petit à parler, on aura besoin de longueurs qui sont de toute façon logarithmiques en G. On ne s'approche pas du tout de cette dépendance polynomiale en G. Oui, mais en fait tous les termes sont exponentiels en l'ellipse. Effectivement, il y a cette développance exponentielle, mais qui est aussi là partout. Oui, ce que je veux dire, c'est que en redivisant par cette exponentielle, tout est du même ordre. Ils sont tous exponentiels en LI. Ah, et aussi, ce que je veux dire, c'est que le premier, pour K égale 0, le premier ordre avait été calculé par Mirzakhani et Petri. Le premier ordre, c'est Fn0 de L1 Ln. C'est produit des sinus hyperboliques Li sur 2 et puis 2 puissance n. Donc dans le terme de premier ordre, il y a que des, dans l'ordre 0, quoi, il y a que des sinus hyperboliques et il n'y a pas de polynômes qui sortent. Alors, mettons que c'était, tout ça c'était un petit 1. On va maintenant, je vais montrer comment on peut s'en servir pour faire, pour estimer des choses sur, sur la géométrie asymptotique des surfaces hyperboliques aléatoires. Je dirais que oui, mais bon, il y a quand même des moins. Par exemple, on avait calculé le terme suivant, là, le Fn1. Il n'y a pas que des plus, alors faut vérifier si. Voilà, faut vérifier quel terme l'emporte. Je ne suis pas complètement sûre qu'elle soit positive. Oui, il faut voir le. Faudrait. Oui, on ne s'est pas posé la question en fait. Je pense que les coefficients de ces polynômes-là sont positifs, mais je ne suis pas complètement sûr que ça se répercute en la positivité des. En fait, voilà, toute notre approche sur les estimés de lambda 1, ils sont basés. Enfin, le point de départ, c'est cette structure-là, mais aussi le fait qu'on n'a pas réellement besoin de connaître les coefficients. Ce qui est important, c'est vraiment cette structure-là et la forme des coefficients, les constantes qui sont devant ne jouent pas de rôle dans ce qu'on fait. Alors, peut-être la chose. On va commencer. Donc, faire quelques calculs typiques qu'on peut faire à partir de ces estimés, c'est par exemple, alors à chaque fois je vais prendre l'espérance pour la mesure de Weil-Peterson et pour des surfaces de genre G et sans bord, on va dire. Et là, le premier calcul qu'on va faire, c'est l'espérance du nombre de géodésiques fermés simples. Et on va dire pour l'instant non séparante. Et puis je vais toujours dire orientée, mais ça c'est pour ne pas se tromper dans les. Je vais essayer de marquer au maximum tous les objets, hein, comme j'ai dit, pour essayer de ne pas se tromper plus tard dans les calculs des stabilisateurs. Et puis de longueur comprise dans l'intervalle AB. Alors la formule exacte, c'est 1 sur le volume total. Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire séparante ou non séparante? Quand vous avez une surface fermée, donc une géodésique simple non séparante, c'est une géodésique comme ça. Donc si je retire cette géodésique à la surface, le complémentaire est connexe. Alors donc celle-là, elle est non séparante, alors qu'une géodésique qui serait comme ça serait séparante. Donc là, on s'intéresse aux géodésiques non séparantes. Donc il y a une formule exacte qui vient des calculs qu'on a fait la dernière fois. Donc quand on doit regarder, si vous vous souvenez, on doit regarder la topologie du complémentaire de la courbe. Donc en fait, quand je retire une courbe non séparante, je me retrouve avec une surface de genre G-1 et avec deux composantes de bord, dont chacune a la même longueur. Je demande que cette longueur soit dans AB. Alors peut-être là, peut-être ici, je vais. Oui. J'ai un doute sur le fait que je dois rajouter un facteur 2 ou non. Bon, ici, peut-être qu'il y a. Peut-être qu'ici, à ce stade, ce n'est pas nécessaire de les orienter. Donc ça, c'est la formule exacte. Et maintenant, je vais utiliser l'asymptotique à l'ordre 0. qui nous dit que VG, la fonction volume, alors je vais diviser et multiplier par VG moins 1, 2. Alors le rapport entre VG moins 1, 2 et VG tend vers 1. Et là, je vais juste utiliser l'ordre 0 calculé par Mirzakhani et Petri. Ça tend quand G tend vers l'infini. Ce quotient de fonction volume, il tend vers 4 sinus hyperbolique carré. Alors, c'est quand je multiplie. Alors, c'est quand je multiplie par L carré que ça tend vers ça. Voilà, donc en fait, cette intégrale, on peut montrer qu'elle a une limite quand G tend vers l'infini, qui va être intégrale de A à B, 4 fois l'intégrale de A à B de sinus carré L sur 2, alors je divise par L carré, mais je remultiplie par L ici, hein, donc il reste à la fin une seule puissance de L au dénominateur. Voilà, donc il y a une limite. Si je calcule l'espérance du nombre de géodésiques fermées simples non séparantes dans un intervalle AB de longueur dans un intervalle AB fixé, cette espérance a une limite qui a une expression complètement explicite. On s'en servira même tout à l'heure pour montrer que la variable aléatoire là, qui est dans la parenthèse, elle suit une loi de Poisson asymptotiquement. Là, finalement, ce que j'ai fait, c'est calculer l'espérance. On verra qu'en fait, tous les moments peuvent être calculés. Mais avant ça, on va regarder ce qui se passe avec les géodésiques séparantes. Donc, je vais regarder maintenant le nombre de géodésiques. Alors ici, ici, elles sont vraiment orientées. Là, j'ai un petit doute. Séparantes de longueur dans AB. Alors, je peux écrire encore une expression exacte, c'est 1 sur VG. Et maintenant, dans les géodésiques séparantes, il faut que je les groupe selon les orbites sous l'action du mapping class group. Et en fait, une géodésique qui sépare, elle va séparer un morceau de genre G-I et un morceau de genre I. Et c'est I qui détermine l'orbite sous l'action du mapping class group. Donc maintenant, si je veux que mes géodésiques soient séparantes, I va varier de 1 à G-1. Alors comme j'ai choisi de mettre les géodésiques orientées, donc du coup, si les géodésiques sont orientées, c'est pas la même chose de séparer G-I à gauche et I à droite, ou l'inverse. Je suis en train de compter deux fois la même chose, en un certain sens, mais... Et là, l'expression exacte, c'est l'intégrale de A à B. Et donc, là, maintenant, je dois regarder la topologie du complémentaire. Donc, le complémentaire, il est fait d'une surface de genre G-I avec une composante de bord qui a longueur L et une autre qui a genre I et de nouveau une composante de bord. Et je dois intégrer ça par rapport à LDL. Alors je vais utiliser une majoration. Et on va pas calculer un comportement limite exact. Hein, on va juste ici faire une majoration. C'est plus petit que 1 sur VG. Somme pour I allant de 1 à G-1 de VG moins I 1 VI 1 intégrale de A à B. En fait, j'utilise la majoration que j'avais donnée sur les fonctions volume. Et ce qui sort, c'est de nouveau, c'est la même chose, je pense. Donc, on va montrer qu'en fait, le terme là qui sort, c'est ce qu'on avait dit. Hein, quand on déconnecte, le volume, ça va être le volume total de l'espace des modules des surfaces non connexe de caractéristiques de l'RG, et on peut s'attendre à ce que ça soit en grand taux de, ça va être un grand taux de 1 sur G. Ben c'est, oui, c'est l'estimé que j'avais donné tout à l'heure. Oui, en fait, c'est l'estimé que j'avais écrit tout à l'heure. Quand je déconnecte en deux morceaux et je divise par le volume total, ça va faire quelque chose qui est en 1 sur G. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que si A et B sont fixés, hein, cette quantité tend vers 0. Mais on peut maintenant essayer de raffiner en se demandant si on peut faire tendre B, prendre B comme fonction de L. Donc ça tend vers 0 si A et B fixés. Mais maintenant, je vais essayer de prendre B comme fonction... On va même prendre A égale 0, peut-être. On va les compter toutes à partir de 0. Et on peut se demander si on... B comme fonction de G. Alors en fait... On peut raffiner un petit peu Donc, ce qui m'intéresse au départ, c'est cette somme-là. Par symétrie, je vais la tronquer à G sur 2, ou G moins 1 sur 2, peut-être. Je vais regarder. En fait, c'est le premier terme qui domine, c'est pour I égale 1. G moins 1, 1. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est en utilisant les estimés. Donc celle-là, voilà, je vais l'écrire comme ça. On va voir que c'est ce terme-là qui va dominer, et les autres termes, en fait, à la somme à partir de 2, je vais utiliser la majoration habituelle, donc par G moins I1. VI1, et puis je vais borner par une exponentielle. Et celui-là, en fait, il va être un grand taux de 1 sur G carré. En fait, si je coupe des morceaux, même si je fais commencer la somme à petit m, la contribution est en grand taux de 1 sur G puissance m. Non, ça c'est... Pardon, j'ai oublié de renormaliser. C'est en renormalisant que la contribution est 1 sur g carré. Et donc, on va même pouvoir dire que l'espérance qu'on est en train de calculer, l'espérance du nombre de géodésiques non séparantes, de longueur plus petit que B. En fait, je vais en rester à des majorations parce que je suis pas sûr que le travail ait encore été fait d'essayer de vraiment trouver une loi limite. Ça va être plus petit que VG moins 1 V1 1 sur VG exponentielle B. Alors justement, celui-là, on peut exponentielle B sur 2, et l'autre, ça va être grand taux de exponentielle B sur G carré. En fait, le premier terme, je l'optimise un petit peu en disant que lui ça reste un polynôme. Hein, là, lui, c'est un polynôme. Alors justement, ce polynôme, il fait peut-être sortir. Je pense qu'il fait sortir une puissance peut-être b carré qui vient de ce polynôme-là. Et pour celui-là, je dis qu'il est plus petit que vg moins 1 1 exponentielle l sur 2. Je regagne comme ça une puissance 1,5 si je voulais essayer d'optimiser un petit peu les choses. Et il faut se souvenir que le VG moins 1, 1 sur VG, oui, lui, il est d'ordre 1 sur G. Hein, donc à la fin, si on s'en tient à des majorations, on trouve quelque chose d'ordre. Il y a du exponentiel B sur 2 sur G, et puis il y a du exponentielle b sur g carré. Donc, tout ça, en fait, ça reste uniforme. On voit qu'on peut prendre b, donc ça tend vers 0. Tant que b égale, égale c log g. J'ai dit séparante, oui, pardon. Merci. Donc ça reste, ça tend vers 0 tant que B c'est C log G avec C strictement plus petit que 2. Donc tant qu'on reste sur des échelles C log G en dépassant pas la constante 2, on ne voit pas de géodésique séparante. Et je ne pense pas que, voilà, après on pourrait se demander si on prend maintenant B qui est égal à 2 log G plus un petit quelque chose, on pourrait se demander s'il y a des lois limites, et je ne suis pas sûr que ce travail-là ait été fait. Bien, je pense que maintenant on a suffisamment d'informations probablement pour le faire. Mais bon, on ne peut pas.
Tu vois ?
Oui.
Je n'ai pas trop compris comment on tombait sur la formule en bas là. On avait vu comment calculer des moyennes de fonctions
ouais.
De longueur. Donc là, c'est quelque chose.
C'est vraiment une application directe. C'est en fait, c'est, alors on utilise le fait que toutes les géodésiques simples non séparantes, elles sont toutes, elles forment une orbite sous l'action du mapping class group. Ça, c'est juste par la classification des surfaces, parce que comme leurs complémentaires ont tous le même genre et le même nombre de composantes de bord, il y a toujours un difféomorphisme qui envoie une courbe simple non séparante sur l'autre. Donc en fait, on l'écrit comme somme de fonction indicatrice de AB de la longueur de gamma, et gamma varie on se fixe une géodésique simple non séparante et c'est une somme sur une orbite et on applique la formule qu'on avait donnée. Et j'essaie de voir si je peux. Ouais, bon, j'ai un petit doute sur le fait qu'il faille diviser par deux. Non, là, en fait, si je mets ici, si je mets orienté, la somme va de 1 à g-1. Et si je mets non orienté, la somme va de 1 à g-1 sur 2. Là, j'ai les idées claires et là, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit doute. Enfin, savoir si en les orientant, il faut multiplier tout ça par deux ou pas. Alors maintenant, on va regarder un petit peu des géodésiques non simples. À chaque fois, c'était des... Oui, j'ai pas écrit là. C'était toujours des géodésiques simples. J'ai toujours considéré des géodésiques simples. Parce que les formules de Mirzakhani concernent toujours des géodésiques simples. On va passer un petit peu maintenant à des géodésiques non simples. Et je vais tout de suite introduire une terminologie dont on aura besoin plus tard quand on étudiera le lambda 1. C'est la notion de type topologique local, donc les notions qu'on a introduites avec Laura. Alors, première définition, donc une terminologie assez standard, c'est si j'ai S une surface à bord, les surfaces sont toujours orientées, et puis C, ça va être une courbe fermée orientée tracée dans S. On va dire que C remplit S si le complémentaire de la courbe dans la surface, c'est une union, et topologiquement, hein, une union, alors soit de disque, donc d'un point de vue topologique, hein, de choses qui sont homéomorphes à des disques, et à ce qu'on appelle des cylindres périphériques. Donc cylindres périphériques, ça veut dire des cylindres qui partagent une composante de bord avec S. Donc l'exemple typique, hein, c'est ma surface S, c'est un pantalon, alors je les dessine souvent comme ça, et puis la courbe, donc la courbe C, c'est cette courbe-là. Là, le complémentaire, il a trois composantes connexes qui sont des cylindres qui touchent le bord. Donc ça, là, cette courbe C, elle remplit S. Là, pour cette courbe C, il y a quatre composantes de bord. Il y en a trois qui sont des cylindres et il y en a une qui est contractile. Donc ça, c'est bon. Et puis, par exemple, un exemple où ça ne serait pas bon, ça serait par exemple un dessin comme ça. Et puis la courbe serait, par exemple, serait comme ça. Donc là, une des composantes connexes du complémentaire a un genre. Donc ça, c'est, ces deux-là sont bonnes. Et celle-là, la courbe C remplit pas S. Et on va introduire une relation d'équivalence hein, sur les. Donc on se donne deux paires formées par une surface à bord remplie par une courbe C et puis une autre surface à bord remplie par une autre courbe C'. Et on veut une relation d'équivalence qui nous dit que les dessins sont les mêmes. Mais il y a des petites subtilités. Donc on va dire. Donc à chaque fois, je suppose que C, la courbe C remplit S. Et là, C, C', ça va être important qu'elle soit orientée. Et on va définir une relation d'équivalence en disant que les deux paires sont les mêmes si il existe un homéomorphisme qui va de S dans S', qui préserve l'orientation. À chaque fois, les surfaces aussi sont orientées. Et je veux que phi de C soit homotope à C'. Et quand je dis homotope, je veux que l'orientation soit respectée. Hein, c'est-à-dire que si j'ai une courbe comme ça et une courbe comme ça, je ne considère pas qu'elles sont homotopes. Je veux vraiment que l'homotopie elle respecte le paramétrage. Donc toutes ces histoires d'orientation, c'est à chaque fois pour être sûr qu'on ne se trompe pas quand on calcule les groupes de symétrie des objets. Alors, la définition est plus subtile qu'il peut paraître. Déjà, sur la question de l'orientation, on peut comparer les deux situations suivantes. Alors, le premier cas, c'est si S et C sont donnés par ce dessin-là, et S' et C' sont données par ce dessin-là. Alors à chaque fois, l'orientation de la surface, hein, c'est celle du tableau, et l'orientation de la courbe, c'est celle que je dessine au tableau. Donc est-ce que ces deux-là sont le même type topologique local? Enfin, est-ce qu'ils sont équivalents? Je n'ai pas encore introduit la notion. Elles le sont parce qu'en fait, si je retourne la phi, je fais juste le phi qui envoie l'un sur l'autre, c'est une rotation. Je fais tourner cette surface et je tombe sur ça.
Tu numérotes pas les composantes du
bord ? Non, pas pour l'instant. Donc là, en particulier, quand je dis un homéo préservant l'orientation, de toute façon, c'est deux surfaces différentes. Ça n'a même pas de sens. Je numérote effectivement pas pour l'instant, là, mais je ne demande pas de préserver. Donc effectivement, j'ai le droit de faire cette opération de retourner la figure. Donc là, ces deux-là, je considère que c'est le même dessin.
Donc les intersections sont transverses, tu peux dire transversales.
J'ai oublié de dire que à chaque fois, mes courbes doivent être ce qui s'appelle en position minimale. À chaque fois, C est en position ça veut dire que les intersections sont transverses et que à chaque fois ma courbe elle minimise le nombre d'intersections dans la classe d'homotopie. Donc en particulier je ne m'autorise pas d'intersection comme ça. Enfin, voilà. Plus généralement, je prends toujours des courbes qui minimisent le nombre d'intersections dans la classe d'homotopie. Alors un autre dessin, qui est apparemment presque le même, Je prends maintenant cette surface-là avec cette courbe-là. Et la même surface avec la même courbe, mais avec l'orientation inverse. On a l'impression que c'est le même cas de figure, mais c'est pas vrai, parce que il n'y a pas d'homéomorphisme qui préserve l'orientation qui envoie cette surface sur cette surface et cette courbe-là sur son inverse, alors que pour celle-là, il y en a. Voilà. Donc il y a sans arrêt des blagues comme ça. Donc ça, c'est déjà... Ça, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'on a décidé d'orienter les courbes. Mais il y a aussi un autre phénomène assez subtil et qui explique pourquoi j'ai demandé... Vous voyez, je n'ai pas demandé que l'homéomorphisme il envoie C sur ses primes. J'ai demandé que l'homéomorphisme il envoie C sur une courbe homotope à ses primes. Et c'est à cause du dessin suivant. Donc, mon premier dessin... C'est la S, la courbe C est comme ça. S, elle a quatre composantes de bord. Donc ici, en particulier, c'est contractile. Et puis, le deuxième dessin, alors je n'arrive jamais à faire du premier coup. Une fois qu'on a fait le premier, on n'arrive plus à faire le deuxième. Voilà, là, je n'ai pas... Alors, et puis, là, les courbes, elles sont orientées comme ça. Je n'ai pas d'homéomorphisme qui envoie ce dessin sur celui-là, mais par contre, j'ai un homéomorphisme qui envoie ce dessin, enfin, par contre, qui envoie cette courbe sur une courbe dans la même classe d'homotopie que celle-là. Parce que par homotopie, je peux faire passer ce triangle-là, je peux le faire passer en dessous, et les deux sont en position minimale, donc je ne peux pas exclure ce cas-là. Donc ces deux dessins sont considérés comme étant les mêmes. Heureusement, on sait que c'est le seul. C'est la seule situation où il y a cette subtilité qui peut se passer, que les courbes peuvent être homotopes sans pouvoir être envoyées l'une sur l'autre par une isotopie. Il y a un théorème qui est très rassurant de Graf et Schreiber. Alors, je crois que ça doit s'écrire comme ça, qui dit que si j'ai deux courbes, C et C' en position minimale, tracé sur une même surface S. Alors dire que C et C' sont homotopes, ça équivaut à dire qu'il existe une isotopie globale de la surface. Donc il existe toute une famille de difféomorphismes globaux de la surface qui part de l'identité. Il existe une isotopie globale de S qui envoie C sur une courbe C tilde, et C tilde ne diffère de C prime que justement par des triangles comme ça. C tilde ne diffère de C prime que par un nombre fini de ce qui s'appelle des mouvements de Rademeister de type 3. Donc la seule différence entre C tilde et C prime, c'est quand on a des triangles comme ça et on fait une modification locale qui transforme ce dessin-là en ce dessin-là. Donc c'est le seul cas où des courbes peuvent être homotopes sans être isotopes. Donc c'est cette subtilité-là que j'ai dessinée-là, c'est essentiellement le seul problème qui peut arriver. Alors, maintenant que j'ai introduit cette relation d'équivalence, les classes d'équivalence, on les appelle des types topologiques locaux. Et maintenant, quand j'ai une surface quelconque et que j'ai une courbe tracée dessus, alors maintenant, voilà, soit je prends S, une surface, gamma, une courbe tracée sur S, mais je demande plus forcément qu'elle la remplisse. En fait, ce que je vais appeler S de gamma, c'est la surface remplie c'est ce qu'on appelle enfin on dit souvent la surface remplie mais c'est enfin, remplie par gamma. Alors, je me rends compte que là, ma notation S de gamma, enfin, c'est celle qu'on a mise dans l'article, mais elle est un petit peu en conflit avec la notation qu'avait utilisée Mirzakhani. Il y a quelques cours, je crois qu'on avait parlé de S gamma, qui était le complémentaire de la courbe. Bon, les deux notations se ressemblent un peu, mais c'est deux objets qui n'ont à peu près rien à voir. Donc, qu'est-ce que c'est que la surface remplie par gamma? Donc, j'ai ma grande surface S. Et puis, j'ai une courbe de gamma comme ça. Pour définir la surface remplie par gamma dans S, je prends un petit voisinage de la courbe, suffisamment petit pour que la topologie de ce voisinage. Donc je prends les points à distance epsilon. Voilà, je prends les points à distance epsilon de ma courbe. Et je prends epsilon assez petit pour que la topologie de cet ensemble ne dépende pas de epsilon. Donc je prends la boule de. Les points qui sont à distance epsilon de gamma, avec epsilon assez petit. Et si je regarde les composantes connexes du complémentaire, et si certaines sont des disques dans S, je rebouche ces disques. Donc union, les composantes connexes. Du complémentaire qui sont des disques. Donc, par exemple, dans l'exemple au tableau, une fois que j'aurai pris ce petit voisinage de taille epsilon, je reboucherai ce disque-là. Et donc, S de gamma, ça serait toute la partie hachurée en bleu. Et on va dire que gamma, donc soit T un T. Donc on va dire que gamma a le type topologique local T. Si la paire formée par définition gamma va remplir S de gamma, et donc si cette paire-là appartient à la classe d'équivalence T. Donc c'est quelque chose qui dépend que d'un petit voisinage de la courbe dans la surface. En particulier, dans la littérature, souvent le mot type topologique est souvent utilisé pour parler d'orbite sous l'action du mapping class group. C'est pour ça qu'on a rajouté local, c'est pour distinguer cette définition de la terminologie qu'on trouve parfois dans la littérature. Normalement, dans le cours, je parlerai tout le temps de type topologique local. Donc, si parfois j'oublie de dire local, ça sera juste un oubli ou de la paresse. Mais dans la suite, à chaque fois, quand je dirai type topologique, ça sera toujours local. Et l'intérêt, enfin, un des intérêts de cette définition, c'est qu'elle permet de comparer des courbes qui sont tracées sur des surfaces différentes. Par exemple, si j'ai une surface de genre 2 avec une courbe tracée dessus, et puis une surface de genre 3. Je peux dire, par exemple, que cette courbe a le même type topologique local que celle-là, alors que ça n'aurait aucun sens de les comparer sous l'action du mapping class group, puisqu'elles ne sont même pas tracées sur la même surface. Et comme on veut faire tendre le genre vers l'infini, on veut regrouper les courbes par une relation d'équivalence qui dépend pas du genre de la surface. Et par exemple, si je dessinais, alors ce type topologique, on l'appelle souvent le 8. Alors, par exemple, cette courbe-là et celle-là, elles ont le même type topologique locale. Par contre, elles n'appartiennent pas à la même orbite sous l'action du mapping class group, puisqu'il y en a une qui sépare et pas l'autre. Et puis, comme j'ai dit, voilà, ces deux-là, ça n'aurait même pas de sens de se demander si elles sont dans la même orbite sous l'action du mapping class group. Alors, le but maintenant, et ça va en particulier nous servir quand on va étudier le spectre du Laplacien et la formule des traces. Le but, c'est obtenir une formule. Le but de ce que je vais faire là dans le reste de l'heure, c'est obtenir une formule pour l'espérance. Alors au début, on va essayer d'écrire une formule exacte, mais après, le but, ça sera de faire l'asymptotique en grand genre. Espérance en genre G, du nombre de géodésiques orientés. Donc on va se fixer un type topologique local. Et le but, ça va être d'essayer d'écrire une formule pour l'espérance du nombre de géodésiques orientés de type T et de longueur entre A et B. Alors on va se fixer, pour écrire cette formule, on va fixer un représentant de cette classe d'équivalence. Peut-être je ne mettrai pas tout le temps, comme T va être fixé, hein, je vais pas tout le temps mettre les indices T, mais on se fixe un représentant du type T, donc c'est celui qui est dessiné au tableau, il est fixé une fois pour toutes. Et celui-là, on va numéroter ses bords. Parce que voilà, maintenant qu'il est dessiné au tableau, on va dire ce bord 1, ce bord-là, il porte le numéro 1, celui-là le numéro 2 et celui-là le numéro 3. Donc c'est une fois qu'on a fixé un représentant et qu'on l'a dessiné et qu'on va écrire la formule que là maintenant je vais numéroter les bords. Oui, parce qu'en grand genre, oui, je vais tous les mettre dans le même sac. Alors si on s'intéresse juste à la contribution dominante. La contribution dominante de ça, c'est effectivement les 8 qui ne séparent pas qui vont dominer. Après, si on se met à vouloir faire des développements asymptotiques à tout ordre en puissance de G, il y a toujours un moment où on est obligé de prendre en compte. Typiquement, par exemple, si je décide que je veux faire mon développement asymptotique, de toute façon, si je décide que je veux faire mon développement asymptotique jusqu'à l'ordre 1 sur G à la puissance N, je vais devoir prendre en compte tous les 8 qui séparent en un morceau de genre plus petit que n et le complémentaire. Quand je veux faire mes développements asymptotiques, je ne vais jamais prendre en compte vraiment la totalité des 8, mais si je me suis fixé un ordre, 1 sur g puissance n, je sais que je dois prendre certains 8 qui séparent, mais à condition qu'un des morceaux soit de genre plus petit que n. Alors, au moment d'écrire la formule, je vais appliquer un peu toujours nos formules d'intégration sur des espaces quotients. Et effectivement, là, dans cette somme, j'ai mis ensemble des 8, si on se base sur ce dessin, j'ai mis ensemble des 8 qui ne sont pas tous dans la même orbite sous l'action du mapping class group. Donc je vais devoir quand même à un moment faire la liste de toutes les orbites sous l'action du mapping class group. Et ça, on appelle ça réalisation de S, de la surface S, dans une surface. Donc une surface S indice G, c'est une manière. Donc en fait j'ai mon dessin et pour faire la liste de toutes les orbites sous l'action du mapping class group, il faut que je regarde toutes les manières dont je peux compléter ce dessin pour obtenir une surface de genre G. Donc par exemple une manière possible, mais il va falloir que je fasse la liste. Une manière possible, c'est par exemple ici je recolle un bout de genre 1 par exemple, et ici je recolle un autre morceau qui va être recollé de ces deux côtés-là. Et puis, faut que je m'arrange. Si je me suis fixé à l'avance le genre, il faut évidemment, il y a des conditions sur le genre ici et le genre ici pour que le recollement donne bien ce que je veux. Donc, faut que je fasse la liste de toutes les possibilités. Alors, cette liste, elle va être donnée par... on a appelé ça des réalisations, hein, mais il faut se donner un entier. Donc, c'est la donnée. Un entier, Q, qui va être, en fait, le nombre de composantes connexes du complémentaire. Donc, cet entier Q, il est appelé à représenter le nombre de composantes clonales du complémentaire. Donc là, par exemple, sur le dessin, hein, Q est égal à 2. Ensuite, on va se donner une partition. Alors ici, ce dessin-là, c'est mon dessin d'origine, donc les bords sont numérotés, par exemple. Lui, c'est le bord 1, le bord 2 et le bord 3. Une partition I1, IQ, de l'ensemble. Alors l'ensemble des composantes de bord, faut que je donne un nom, je vais appeler G indice S, c'est le genre de S, et puis N indice S, c'est son nombre de composantes de bord. Donc en fait, il faut que je partitionne l'ensemble des composantes de bord en Q sous-ensemble. Quand je dis partition, hein, c'est des ensembles disjoints non vides dont la réunion fait cet ensemble. Voilà, donc ça c'est... Et ensuite, la dernière chose qu'il faut que je me donne, c'est le genre de chacun des morceaux que j'ai recollés. Donc des entiers qui vont représenter les genres de chacun des morceaux. Donc par exemple, là sur mon dessin, I1 c'est 1, 2 et I2 c'est 3. Donc ça me dit qu'il y a une des composantes clonesses que je vais coller qui va être recollée au bord numéro 1 et 2. Et puis l'autre, je vais la recoller au bord numéro 3. Et puis les genres, ici, G1 sur mon dessin, G1 c'est le genre de ce morceau qui vaut 3 sur le dessin, et puis G2 est égal à 1 sur le dessin. Alors quelle est la contrainte? Je vais toujours demander que 2GI moins 2 plus NI soit positif ou nul. C'est l'opposé de la caractéristique de l'air du morceau numéro I. Donc là, ça dit que je n'ai pas le droit de recoller des disques. Par contre, j'ai le droit de recoller des cylindres. Parce que, ça c'est un choix qu'on a fait dans notre définition, on s'autorise à prendre deux morceaux et à les recoller ensemble. Hein, donc les morceaux qu'on recolle... peuvent être des cylindres ou des surfaces de caractéristiques de l'air strictement négatives, mais par contre on n'a pas le droit de recoller des disques. Par contre les cylindres sont autorisés. Les cylindres c'est Ni égale 2 et Gi égale 0. Et puis il faut que les Gi et les... Alors j'ai oublié de dire Ni. Ni c'est le cardinal de l'ensemble numéro I. Donc Ni, c'est le nombre de composantes de bord de la surface numéro I que j'ai recollée à l'extérieur. Et il y a une condition sur les GI et les Ni pour au final obtenir une surface de genre G. Il faut que somme... Alors je vais peut-être introduire qui de GI à Ni, c'est... Je vais peut-être toujours les prendre. C'est à chaque fois ce que je regarde, c'est toujours la valeur absolue de la caractéristique de l'air. Et la contrainte, elle est donnée par l'additivité de la caractéristique de l'air. Ça nous donne que la somme des qui de GI NI doit faire 2G-2. Plus, il faut rajouter la caractéristique de l'air de la surface du milieu. Voilà, donc la donnée de tout ça, donc un entier Q, une partition des composantes de bord et une collection de genres qui doivent vérifier cette contrainte, c'est ce qu'on appelle une réalisation de la surface S dans une surface de genre G, et ça nous sert à lister en fait les orbites sous l'action du mapping class group. Donc ça sert à énumérer les orbites de l'action du mapping class group de la surface de genre G sur, je fais agir ce groupe sur les surfaces sigma, sur les surfaces homéomorphes à S, et c'est des surfaces à bord numéroté. Ici sigma c'est un pantalon avec bord numéroté 1, 2, 3. En fait, les orbites sont codées par les réalisations servent à énumérer les orbites. Il y a autant d'orbites que de réalisations. Non, justement, ça, pour l'instant, ça ne tient pas compte de la... pour l'instant, j'ai juste parlé de comment compléter la surface. Mais il va aussi, voilà, il y a aussi un moment, il va aussi falloir se demander quelle est la position de la géodésique dans le pantalon. Et donc, la formule, si on applique les techniques d'intégration sur les espaces quotients, on obtient la formule suivante. C'est que l'espérance du nombre de géodésiques fermées orientées de type T et de longueur dans AB, c'est égal. Alors, il y a une somme sur toutes les réalisations. Qui correspond justement à une somme sur toutes les orbites du mapping class group. Et comme a dit Anton, si on s'intéresse à l'ordre dominant, c'est toujours la réalisation non séparante qui l'emporte sur les autres. C'est seulement si on s'intéresse au terme sous-dominant qu'on commence à voir les réalisations séparantes. Donc il y a une unique, à chaque fois, il y a une unique réalisation qui est non séparante. Alors, à quoi ressemble l'intégrale? C'est une grosse intégrale. Alors, il y a une intégrale qui. Dans l'intégrale, il va y avoir les fonctions volume. Il y a une partie de l'intégrale qui se passe à l'intérieur de S, et il y a une partie de l'intégrale qui concerne les fonctions volume de l'extérieur. Donc, je vais d'abord écrire l'extérieur. Donc pour chaque réalisation, j'adopte les notations là de la définition. Donc là, la partie de l'intégrale qui concerne... Donc là, voilà, cette partie-là, j'intègre sur l'ensemble des métriques sur l'extérieur de la surface. Donc ça donne VGINI. Donc c'est produit pour I égale 1 à Q. Et Q, c'est le nombre de composantes connexes. Alors L... C'est un vecteur de nombre. Alors, L1. Voilà, les Li là, qui vont être dans l'intégrale, ce sont les longueurs. Ce sont toutes les longueurs de bord possibles. Donc, le nombre de composantes de ce vecteur, c'est le nombre de composantes de bord de S. Et puis, à chaque fois, je restreins à I indice I. Alors, cette première partie-là, c'est ce qui concerne... Là, j'ai intégré sur tout l'espace des métriques à l'extérieur. Donc là, ça ne dépend pas de la courbe. D'accord ? Et à l'intérieur... Et maintenant, j'ai une intégrale. J'ai aussi une intégrale qui va avoir lieu sur... Maintenant, je vais devoir intégrer sur... Pour la mesure de Weil-Peterson... sur l'espace des modules sur S et à longueur de bord fixée L. Donc Y, ici, Y, c'est... Alors, il y a deux manières de le voir. Je vais d'abord l'écrire. La première manière d'écrire, c'est, on va dire que c'est une intégrale sur l'espace des modules de la surface S en fixant les longueurs de bord L1, L1, L2, LS. Et donc là, je dois intégrer sur toutes les métriques à l'intérieur. Et la quantité que j'intègre,
Alors,
c'est la somme sur toutes les géodésiques orientées qui sont dans l'orbite par le mapping class group dans l'orbite de C. Et là, je mets une fonction indicatrice. Je dois compter que les géodésiques qui sont en longueur dans AB. Voilà, et c'est, donc là, est-ce que c'est bon? Oui. Pas tout à fait, parce que justement, là, je dois me demander si en numérotant les bords, j'ai compté trop de fois la même chose ou non, et ça dépend de la courbe. Donc, pour tout ça, j'avais pas de questions à me poser sur la courbe, mais pour certaines courbes, en particulier pour le 8, j'ai compté deux fois. Et à un moment, je dois me demander si en numérotant les bords, j'ai compté trop de fois la même courbe. Et là, si c'est le cas, je dois diviser par un certain truc qui dépend de la courbe, en fait. Alors, vous voyez, il y a tellement d'endroits où on peut se tromper dans les stabilisateurs qu'on était vraiment contente avec Laura d'avoir une preuve qui ne dépend pas de savoir si on a oublié un 2 quelque part ou non. Donc M de T, alors, c'est l'ensemble des permutations, c'est le cardinal de l'ensemble des permutations du bord, donc induites par les difféomorphismes qui préservent justement. Voilà. On avait dit que dans la définition de type topologique, on n'était pas obligé de respecter la numérotation des bords, et justement pour certaines courbes il y a des difféomorphismes qui permutent les bords mais qui préservent la courbe. Donc on doit compter toutes les permutations du bord induites par les difféos de S qui préservent la courbe UC, qui préservent. Donc voilà l'exemple type, par exemple la question se pose déjà pour le 8 puisqu'on a vu que ces deux dessins-là, ils sont dans le même type topologique local. Ça veut dire que pour le 8, en numérotant ce morceau-là 1 et ce morceau-là 2, j'ai compté le 8 trop de fois. Parce que, voilà, comment dire. J'ai un difféo de cette surface qui permute le bord 1 et le bord 2, mais pour lequel les deux courbes sont indistinguables. Donc, pour le 8, le M de T, il vaut 2. Par contre, pour l'autre, pour cette courbe-là, le M de T, il vaut 1. Pour le 8, en fait, juste en regardant la figure, j'ai aucune manière de dire ça c'est le numéro 1 et ça c'est le numéro 2. Il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que ça change l'orientation. Ouais, parce que ça change l'orientation, ouais. Non, justement, pour le 8, pour passer de ça à ça, je ne change pas l'orientation, je fais juste une rotation. Et là, voilà, le dessin. Sur ce dessin-là, ça a un sens de dire celui-là s'appelle 1 et celui-là s'appelle 3. Alors que sur celui-là, il n'y a pas de moyen de les distinguer, en fait. Et alors là, j'ai décidé d'écrire, ou si on a le choix, là j'ai décidé, dans cette version-là, j'ai écrit comme une intégrale sur l'espace des modules de S, et du coup là j'ai dû sommer, à l'intérieur de S, j'ai dû sommer sur toutes les courbes qui étaient dans l'orbite de C. Mais je peux aussi décider de déplier cette intégrale et de l'écrire comme une intégrale sur l'espace de Teichmuller. Donc, variante, je peux. C'est la même chose aussi de dire. Donc, cette partie-là, que j'ai écrite comme intégrale sur l'espace des modules, je peux aussi. Je suis encore sur un espace quotient, je peux aussi. Je peux aussi la réécrire. Je peux toujours intégrer l'espace des métriques sur Y, mais maintenant Y appartenant à l'espace de Teichmuller. Et du coup, la somme disparaît. Et par contre, il faut encore se demander si on a compté trop de fois la même courbe. Et en fait, il se peut que la courbe, elle ait des. Donc là, si on compte trop de fois la même courbe, c'est si jamais. Il y a des difféos qui préservent le bord, mais qui sont non triviaux et qu'on voit la courbe sur elle-même. Donc il se peut là aussi qu'on ait besoin de rediviser Donc M de T, c'est le nombre d'éléments de M, le mapping class group de cette surface S qui préserve le C. Enfin, qui envoie C sur une courbe qui lui est homotope. Alors les deux écritures sont intéressantes. Celle-là, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on intègre sur un ensemble de mesures. On sait que l'espace des modules, il est de volume fini. Donc si on écrit ça comme une intégrale sur l'espace des modules, on sait que voilà, ça c'est une mesure finie. Et il y a des bornes qui permettent. On sait que cette fonction est bornée parce qu'il y a des bornes un peu. Enfin, que je vais énoncer, des bornes universelles qui permettent de dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de géodésiques fermées de longueur plus petite que B. Donc au moins si on l'écrit comme ça, on se rassure sur le fait que l'intégrale soit finie. Hein, parce qu'on intègre sur un ensemble de mesures finies, on intègre une fonction dont on sait qu'elle est bornée. Par contre, on a cette somme qui est un petit peu embêtante. Et si, par contre, si on l'intègre sur l'espace de Teich-Müller, on est content parce qu'on n'a plus la somme. Mais par contre, il faut un petit peu se soucier. Enfin, là, maintenant, on est en train d'intégrer quelque chose sur un espace de mesures infinies. Et il faut vérifier que le fait d'introduire cette fonction test nous donne bien un résultat fini. Et ça, c'est pas complètement évident, hein, le fait de. Pour le 8, c'est pas trop dur, mais pour des cours plus compliqués, il faut vraiment. Là, pour savoir que cette écriture-là est finie, il faut vraiment utiliser le fait que la courbe, elle remplit la surface. En fait, si on a une courbe qui remplit une surface S et qu'on lui impose d'avoir une longueur plus petite que B, il faut arriver à montrer que ça. Ça correspond à un ensemble de volumes finis dans l'espace de Teich-Müller de cette surface. Si la courbe ne remplit pas, ça n'a aucune chance d'être vrai. Voilà, donc ça c'est l'expression. Et peut-être, je vais écrire tout de suite. C'est une expression qui est de la forme intégrale. On peut montrer que c'est de la forme intégrale de 0 à plus l'infini. On peut se demander comment ça dépend de. Je vais en profiter pour introduire ce qu'on a appelé les fonctions volume généralisées. Ça peut s'écrire comme l'intégrale de cette fonction test, là, cette fonction indicatrice de L, fois une certaine densité que je vais appeler Vg T de L dL. Donc il y a une densité. On va pas vraiment. C'est au moins une fonction continue, mais elle est probablement bien mieux. On peut montrer qu'en fait, si vous regardez cette fonction, là, on a une mesure qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Et on est en train de regarder sa mesure image par cette fonction longueur. Et c'est pas très dur de se convaincre, mais on donnera même des formules, mais c'est pas très dur de se convaincre que cette fonction longueur, c'est une fonction analytique dans les coordonnées de Fanchen-Nielsen. Donc là, pour dire qu'en fait, il y a une densité, c'est juste un argument abstrait pour dire que quand on prend l'image de la mesure de Lebesgue par une fonction analytique qui n'est pas triviale, qui n'est pas singulière, alors la mesure image a toujours une densité. Ça, je ne vais pas détailler l'argument, mais c'est un argument un peu général de théorie de la mesure, hein, que les fonctions analytiques, leurs points critiques sont isolés, donc là, quand on pousse une mesure de Lebesgue par une fonction analytique, la mesure image a toujours une densité. Et donc celle-là, c'est ce qu'on appelle une fonction volume, donc le V. C'est la fonction volume associée au type topologie de T, et pour l'instant, c'est une formule exacte, associé au type topologique local T. Alors, c'est quasiment une formule explicite. Ça serait vraiment explicite si j'avais une expression explicite de la longueur de gamma dans des coordonnées. Et c'est ça qu'on fera. C'est quelque chose qu'on a trouvé avec Laura. C'est que. On arrive, en fait, il y a moyen de donner des expressions explicites des fonctions longueur pour des courbes non simples. Donc si on arrive à rendre ces fonctions longueur explicites, cette intégrale est relativement explicite, à prendre avec des pincettes, puisque tous ces polynômes de volume sont juste connus par récursion topologique, mais c'est ça un petit peu l'outil avec lequel on va travailler. Bon, je vais peut-être arrêter pour aujourd'hui. Et peut-être, voilà, ce que...
La fonction analytique dont tu parles, c'est la meilleure.
C'est la fonction qui a C... Enfin, non, c'est la fonction qui a Y. Donc C, il est fixé, on s'est fixé le type topologique. C'est la fonction qui a Y associe la longueur de la géodésie, la longueur du représentant géodésique. Oui, la longueur pour la métrique Y du représentant géodésique de C. Donc on la voit, c'est une fonction de Y. Le Y, je peux l'écrire, il est donné par des coordonnées de Fanchen-Linsen. Hein, voilà, Y, il varie dans un espace de dimension finie. Et cette fonction, elle est analytique. C'est même en fait, que je dise pas de bêtises, c'est aussi une fonction. Ça dépend. Ouais. Oui, Y, il est dans. Ouais. En fait, la fonction dépend aussi des longueurs de bord. Hein. Y, il est dans. En fait, je vais l'écrire. C'est une fonction. Je prends des longueurs de bord et un Y qui est dans l'espace de Teichmuller. Et je lui associe la longueur du représentant, la longueur pour Y du représentant géodésique de C. Donc ça, c'est à la fois une fonction, enfin c'est une fonction, il faut d'abord se donner les longueurs de bord, puis une métrique compatible avec ces longueurs de bord. Une dernière chose, peut-être ce que je devais dire, parce que je suis pas sûr, peut-être que je recopierai cette formule-là, mais... Une chose qu'on voit assez facilement à partir des si on a en tête toutes les estimées qu'on a vues jusqu'à présent, c'est que cette quantité-là, en fait, c'est si on regarde, c'est un grand taux de G à la puissance la caractéristique de l'air de la surface S. Et puis ici il y a une dépendance exponentielle en B, mais que j'en parlerai. Ça sera très important pour nous de comprendre la dépendance exponentielle en B, mais là, pour l'instant, en fin d'heure, la seule chose que je veux dire, c'est que ça décroît. Pour des courbes non simples, ça tend toujours vers zéro, si B est fixé. Et l'ordre, ça vient vraiment de toutes les estimées qu'on a vues jusqu'à présent. L'ordre dominant, c'est donné par la réalisation non séparante et qui donne une contribution en 1 sur G, à la puissance, la caractéristique de l'air de S. Donc en fait, d'une part, première conclusion, c'est que l'espérance du nombre de géodésiques de type T, donc si B est fixé, l'espérance du nombre de géodésiques de type T et de longueur plus petite que B tend vers zéro. Et puis, à condition que T soit non simple, étant vers 0, et en fait, comme ça tend vers 0, comme 1 sur G à la puissance. Donc déjà, enfin voilà, les géodésiques non simples, elles apparaissent que à des ordres sous-dominants, et en plus elles remplissent une surface de grandes caractéristiques de l'air, moins elles contribuent. On reprendra ça un petit peu, enfin même beaucoup, à la rentrée. Voilà. D'une part, je me servirai un petit peu de ça pour montrer que l'ensemble des géodésiques de longueur dans AB, ça suit asymptotiquement une loi de Poisson. Et puis après, on passera à l'étude du trou spectral. Voilà. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.